Une annonce choc hier d'Emmanuel Macron, l'instauration d'un couvre-feu pour 8 métropoles et la région Île-de-France à partir de samedi. Seule façon, selon le chef d'État, de freiner la propagation du virus, dont les derniers chiffres révélés par Santé publique France sont alarmants. Nous ferons le point dans ce journal. Nous irons également en Biélorussie, où les manifestations ne faiblissent pas, malgré un durcissement net de la répression policière. Enfin, Bruxelles se prépare à un Conseil européen compliqué, où la question du Brexit sera une nouvelle fois abordée. Dans ce journal, nous irons à Ashford, dans le Kent, où un député conservateur réclame un accord face aux menaces de no deal. La mesure était attendue, mais elle a tout de même créé le choc. Le président de la République a donc annoncé hier la mise en place, à partir de ce vendredi minuit, d'un couvre-feu pour 20 millions de personnes, les habitants de l'Île-de-France et de 8 aires urbaines françaises. Hier soir sur France 2 et TF1, c'était la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprimait spécifiquement sur la crise sanitaire depuis le 14 juillet. L'objectif était de remobiliser les Français face à la progression du virus, dont les chiffres donnés hier par Santé publique France marque une forte aggravation, on va y revenir. Il fallait donc faire quelque chose et pour éviter à tout prix un reconfinement généralisé, c'est la mesure du couvre-feu qu'a choisi le chef de l'État. Retour sur ses propos avec Stéphane Robert.
Interdiction de sortir de 21h à 6h du matin, le couvre-feu entrera en vigueur samedi, en Île-de-France ainsi que dans les métropoles de Lille, de Lyon, d'Aix-Marseille, de Montpellier, de Rouen, de Saint-Étienne, de Grenoble et de Toulouse. Il est programmé pour une période de 4 semaines, mais plus vraisemblablement pour 6 semaines avec l'accord du Parlement. Après, on avisera, a expliqué Emmanuel Macron.
6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Et au fond, ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus.
Le chef de l'État a dit être conscient qu'il y aura des conséquences économiques pour les bars, les restaurants, les salles de spectacle. Selon lui, il faudra essayer de faire en sorte, notamment dans les théâtres et les cinémas, que les gens s'y rendent plus tôt. Et puis il a promis que les mesures d'aide, en particulier le chômage partiel, seront réactivées pour ces secteurs. Il y aura également des autorisations spéciales pour le travail tardif, pour les services d'urgence, bref, pour tout ce qui est indispensable, mais toute sortie qui ne sera pas justifiée pourrait être sanctionnée par une amende de 135 euros et en cas de récidive de 1500 euros. L'incertitude maintenant réside dans le degré d'acceptation sociale de ces nouvelles restrictions.
Et cette annonce du couvre-feu a fini de mécontenter les acteurs de la vie culturelle, festive et nocturne. Si Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, a bien confirmé que la prise en charge du chômage partiel à 100% par l'État serait effective pour tous ces secteurs, ça n'a pas empêché les réactions. Les restaurateurs estiment que c'est la fin du service du soir. Dans leurs établissements, ils réclament d'être reçus à l'Élysée pour parler de nouvelles mesures. Nous y reviendrons dans le journal de 8. Autre mesure annoncée par le chef de l'État, une aide ponctuelle de 150 euros auxquels s'ajouteront 100 euros par enfant. Elle sera versée pendant les 6 semaines qui viennent aux bénéficiaires du RSA et à ceux qui perçoivent les APL. Une aide semblable avait été versée au printemps pour justifier ce choix en faveur notamment des plus jeunes. Emmanuel Macron a affirmé préférer une aide exceptionnelle massive plutôt qu'une augmentation des minima sociaux que réclament pourtant les associations de lutte contre la précarité. Nous sommes dans la deuxième vague, a déclaré hier le président, et de fait tous les chiffres semblent le confirmer. D'ailleurs, une nouvelle salve d'indicateurs chiffrés de l'évolution de la maladie en France paraissait au moment où s'exprimait Emmanuel Macron. Arnaud Rozac nous en fait la synthèse.
Tous les indicateurs sont dans le rouge. Le président l'a dit, le virus repart, il recircule très rapidement et on le voit très bien avec le taux de positivité des tests qui vient de dépasser les 12%. Le taux d'incidence, lui aussi, est très élevé. À la mi-juin, la France comptait seulement 4 cas positifs au Covid pour 100 000 habitants, mais aujourd'hui, nous en sommes à 176. L'un des chiffres les plus impressionnants, c'est celui des nouveaux cas confirmés. Santé publique France en compte plus de 22 000 ces dernières 24 heures, c'est beaucoup trop élevé pour le gouvernement. Emmanuel Macron veut redescendre entre 3 et 5 000 nouveaux cas par jour pour reprendre, dit-il, le contrôle de l'épidémie. En ce qui concerne le nombre de morts du coronavirus dans le pays, eh bien la barre des 33 000 victimes a été dépassée hier avec 104 nouveaux morts recensés. Enfin, dans les hôpitaux, la situation est critique. Le président a rappelé que les services de réanimation sont sous pression. Exemple, en Seine-Saint-Denis, où 3/4 des lits de réanimation sont occupés à l'heure actuelle par des patients Covid.
Et justement, une partie des soignants sera en grève ce jeudi pour réclamer des embauches massives dans les hôpitaux publics et des augmentations de salaires. Ils se disent particulièrement découragés par les résultats du Ségur de la Santé qui a débouché sur une revalorisation salariale moitié moins importante que ce qu'ils espéraient et des embauches qu'ils estiment bien trop faibles. Un appel à cesser le travail est lancé par la CGT, Sud Santé Sociaux, la CFE-CGC ou encore le collectif Interurgence. En Biélorussie, les manifestations continuent malgré une répression de plus en plus dure. Lundi, ils étaient près de 20 000 à battre le pavé à Minsk, la capitale. Mardi, c'était les maires et les grands-mères biélorusses qui organisaient des chaînes de solidarité dans les quartiers de la capitale. Et à chaque fois, des arrestations et de plus en plus souvent des violences policières. C'est un reportage à Minsk de notre envoyé spécial Eric Biegala avec Théodore Katim.
Olia, jeune documentariste, est de presque toutes les manifestations depuis la mi-août et elle confirme, la répression est de plus en plus dure.
Il y a une escalade de la violence. Nous, on s'est retrouvés coincés par les policiers contre un mur avec seulement nos parapluies comme protection contre ces types. Ça faisait vraiment peur. Après, j'ai vu pas mal de brutalité contre d'autres manifestants.
Beaucoup d'autres jeunes activistes estiment d'ailleurs que ce durcissement des pratiques policières n'est rien d'autre qu'une provocation. Pour Enadzi, ces brutalités ne décourageront pourtant personne.
La violence, ça ne marchera pas, ni de leur côté, ni du nôtre. On a bien compris qu'on n'arriverait à rien si on se mettait à les imiter.
Le ministre de l'Intérieur d'Alexandre Loukachenko a pourtant menacé de faire tirer à balles réelles sur les manifestants. Olia redoute la chose.
On espère qu'ils n'en viendront pas à ça, mais on y pense, c'est vrai. Les gens ont peur. Et en même temps, on sait très bien que si on s'arrête de manifester maintenant, on aura tout perdu. Et on n'est pas encore prêt à quitter nos positions.
Les positions de l'opposition, c'est la rue. La prochaine marche d'importance, ce sera celle des femmes ce samedi, comme tous les samedis, depuis le scrutin du 9 août.
Eric Biegala. En Thaïlande également, les manifestations reprennent et la répression continue. Arrestation des leaders, interdiction des rassemblements de 5 personnes et plus, interdiction des messages en ligne. Le gouvernement thaïlandais a durci le ton face au mouvement de contestation. Les manifestants réclament le départ du Premier ministre au pouvoir depuis un coup d'État en 2014, ainsi qu'une modification de la Constitution mise en place en 2017 sous la junte très favorable à l'armée. La situation en Thaïlande, ce sera l'objet de la revue de presse internationale de Camille Magnard à 7h35. Un conseil européen débute aujourd'hui à Bruxelles et il y sera question de Brexit, même si aucune décision majeure ne devrait être prise à l'issue. On rappelle qu'aucun accord n'a encore été trouvé. Les négociations entre Bruxelles et Londres patinent depuis des mois. Le Brexit, c'est pourtant à la fin de l'année. Damian Green est député conservateur du Kent, un comté qui se situe entre Londres et la Manche. Il voit défiler chaque jour plus de 7000 camions qui transitent depuis la France. Ashford, une ville du Kent, devrait accueillir une zone de douane où plus de 2000 poids lourds pourraient être accueillis après le 1er janvier. Et cela inquiète les électeurs de Damian Green, donc cet élu de la majorité, interrogé par Richard Place.
Nous ferions mieux de quitter l'Europe avec un accord. J'ai toujours eu et je continue d'entretenir des relations amicales avec nos voisins, les Français en particulier. Nous devons conserver ces bonnes relations même une fois que nous serons en dehors de l'Union européenne. Je fais confiance à notre administration. Elle fait le maximum, je n'ai aucun doute. À côté de ce parking pour poids lourds, de cette zone de douane, j'ai convaincu les autorités de planter de nouveaux arbres, de créer une barrière verte entre les camions et les maisons des riverains. C'est notre intention actuellement et j'ai bien l'intention de m'y tenir dans les deux prochaines années.
Le Brexit en ligne de mire, le reportage à Ashford dans le Kent, ce sera le reportage de la rédaction tout à l'heure à 7h24, signé Richard Place. On termine avec un mot de météo et une journée qui s'annonce maussade, ciel chargé et faible pluie, de la neige sur les reliefs. Les températures minimales seront comprises entre 4 et 8 degrés en général, 7 à 12 degrés en bord de Méditerranée. Au plus chaud, comptez entre 9 et 15 degrés du nord au sud, 15 à 18 dans le sud-est cet après-midi.